Bonjour, bonjour à tous, bonjour aux amis virtuels. C'est chaque fois vraiment un honneur de pouvoir être là et de vous apporter quelque chose de la part, et j'espère, c'est vraiment de la part de Dieu pour vous ce matin. En tout cas, c'était déjà pour moi. J'ai bien profité déjà de ce que le Seigneur m'a montré à travers de cela. Ouais. Ce matin, le thème sur lequel je vais parler, c'est le secret de son plan tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de manière manifeste pour ceux qui lui appartiennent. Le secret de son plan, le secret de son plan tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour ceux qui viennent. Et voici le secret: Christ en vous, l'espérance de la gloire. Prenons un moment ce matin, juste de méditer cette idée prodigieuse, le fait prodigieux, hein, ce n'est pas une idée, c'est une réalité. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le Dieu que le ciel ne peut pas contenir. On dit Dieu, les cieux, et on connaît hein, maintenant avec toutes les images satellites qu'on a de comment ça s'appelle, Hublot, ou je ne sais plus qui dit, on voit les galaxies, les constellations, et Dieu ne peut pas être contenu dans tout cet espace, et pourtant, il vit en moi. Et comme Frédéric aime beaucoup le dire souvent, il aime vivre en moi. Ce n'est pas un supplice pour lui. Son bonheur et son idée depuis toujours était de vivre au plus près de nous, en nous. C'est un grand, grand mystère. Et on s'habitue, hein? Moi, franchement, je passe des journées, des semaines entières sans vraiment réaliser cette idée prodigieuse, époustouflante, éblouissante. On peut trouver toutes les superlatives. C'est juste incroyable. Le texte que je vais utiliser aujourd'hui, et je lis juste une phrase, et après, à la deuxième partie de mon message, je vais revenir sur d'autres textes dans ce chapitre. Donc, Colossiens 3:3, vous êtes cachés, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Si on demande à un artiste de nous peindre cette réalité, je me demande comment il s'y prendra, parce qu'à la fois Dieu est en nous, mais après nous, on est avec le Christ en Dieu. Hein, c'est incroyable, hein? C'est très complexe. On ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe là. J'aime un peu trouver des synonymes ou bien un peu des images ailleurs dans la Bible qui veut dire la même chose. Et j'ai l'impression, alors je ne sais pas si les théologiens parmi nous seront d'accord avec moi, mais en tout cas. Donc le texte le plus connu, c'est donc Jean 15, n'est-ce pas? Demeurez. Demeure en Christ. Hein? Et les vignobles parmi nous savent ce que c'est, n'est-ce pas? Donc, hein?
Les vignerons.
Oui, c'est vrai qu'il y a un vignoble et plusieurs vignerons. Oui, des vignerons et des vigneronnes. Est-ce qu'il y en a? Oui. Donc, Jésus dit que lui, il est le cep. Donc, le cep, c'est un peu le tronc. Hein, de cette vigne, et nous, on est des branches. Et si nous permettons cette branche que nous sommes de s'enraciner et de rester attachée, nous porterons beaucoup de fruits. À Nicodème, Jésus parle de naître né de nouveau. Donc, il y a un truc nouveau qui s'est passé. Hein? Il y a beaucoup de cette idée de il y avait l'ancien et le nouveau, mort et vivant. Donc, il y a vraiment une nouvelle naissance, quelque chose de complètement nouvelle qui s'est passé quand on a donné notre vie à Dieu. Dans Éphésiens 1, il parle d'être comblé des bénédictions dans le monde céleste. Et on se demande où ça se passe aussi. Hein? Est-ce que je suis au ciel? Est-ce que je suis sur la terre? Le ciel, où est le ciel? C'est une bonne question aussi, une fois pour une prêche, ça serait très bien de dire, c'est où ce ciel? Il est là-bas, il est ici, il est... Voilà. Galates 5, 16 dit « Laissez le Saint-Esprit diriger vos vies hein? ». Donc, on a cette notion de dire « Voilà, maintenant, c'est plus moi qui dirige, c'est le Saint-Esprit ». 1 Jean 1 dit de vivre dans la lumière. 2 Corinthiens 5 parle d'être unis à Christ. On est donc une nouvelle créature. Et j'aime bien dans l'Ancien Testament, en fait, tous ces textes qui parlent de… Je les rapproche de cette vérité. Psaume 1 « Soyez comme un arbre ». planté près d'un courant d'eau, qui porte des fruits dans son 16 ans, toujours, qui donne toujours son fruit dans son 16 ans, son feuillage toujours vert. Et tout ce qu'il fait réussit. Et psaume 23, David qui soupire de son plus grand souhait, c'est de vivre dans la maison de l'Éternel toute sa vie. Et c'est notre réalité aujourd'hui. Hein? Nous vivons, en fait, Dieu vit en nous tout le temps. Nous sommes constamment dans le temple de l'Éternel. Nous sommes un temple. Hein? C'est ça que nous dit d'autres textes. Nous sommes aujourd'hui le temple de l'Éternel. Donc, je fais suite à l'excellent message de Frédéric le 27 mars, qui malheureusement n'a pas été enregistré parce qu'il y avait un mauvais son. Et ce que alors, c'est mon résumé, hein. Je ne sais pas si tu seras d'accord, Frédéric, mais ce que j'ai retenu, c'est que depuis la nouvelle naissance, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, en fait, la véritable Liliane aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu et mon esprit aujourd'hui, qui sont un. Et ça, en fait, la véritable moi, c'est cette union de son esprit et mon esprit. Ça, c'est la vraie Liliane aujourd'hui. Et dans le monde, dans la psychologie, dans la société, on dit « qui suis-je ?» C'est une grande question existentielle, il faut se chercher, il faut se trouver, c'est essentiel. Quand on ait la réponse à cette question « qui suis-je vraiment ?» Eh bien, qui en est vraiment, hein, Eva? C'est l'Esprit de Dieu et ton esprit ensemble, et cette union, c'est qui tu es vraiment. Ça, c'est qui on est vraiment. C'est l'union de l'Esprit de Dieu. C'est prodigieux, non? D'imaginer ça, cette réalité, que ma nouvelle identité se trouve... Et alors, ce que disait Frédéric, c'est que peu importe si on le vit ou pas, cette réalité reste, en fait. Donc, du côté de Christ, ça sera toujours... Il est toujours lié. Et nous, on vagabonde, hein, on vacano, souvent... Moi, je peux des fois passer des heures, des jours, mais même des jours sans penser à cette réalité. Et c'est horrible d'y penser à ça. Moi, je peux vraiment... Et de vivre à l'ancienne, en fait. À l'ancienne. La vieille Liliane qui fait casse-à-tête, qui fait ce qu'elle veut, qui fait quand elle veut. Voilà, je peux vivre, c'est impressionnant. Mais ça ne change rien à la réalité de qui je suis unie à Christ. Alors moi, j'aime beaucoup raconter des histoires et j'ai l'impression que j'ai déjà raconté cette histoire. Mais en anglais, on dit « storyteller ». En français, on ne trouve pas ce mot, on dit « conteur »,« conteuse ». J'aime bien « storyteller ». Et j'aime bien retracer en fait le panorama de ce que Dieu a fait de toute l'éternité et de juste nous tisser de nouveau la grande histoire. Hein? Donc, je me répète, je sais, des fois, j'ai l'impression que je prêche toujours la même chose. Des fois, je vais aller voir, de vous dire « je n'ai pas déjà dit tout ça ». Mais ce n'est pas grave, c'est des faits tellement incroyables. Alors avant, depuis les temps immémoraux, dit comme ça, et immémoriaux de toute éternité, avant que le Big Bang ou la création ou comment vous voulez l'appeler, Dieu était. Et Dieu n'était pas tout seul dans son ciel, tout triste. Non, Dieu était trois et Dieu avait beaucoup de bonheur entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. De toute éternité, c'était incroyable tout ce qui se passait. Tout cet amour, cette intimité, cette relation, ce à quoi on soupire, il le vivait, lui, depuis toujours. Et à un moment donné, il dit « faisons les humains ». À notre image, pour les inclure, on veut les inclure, on veut ouvrir le cercle, on ne veut pas rester entre nous, on veut ouvrir le cercle pour que nous puissions inviter d'autres personnes à ce que nous vivons. Et voilà, il a pris tout son temps. Alors pour ceux d'entre vous où c'est en 7 jours, ou ceux d'entre vous où c'est des millions d'années, voilà, Dieu a pris son temps et il a fait un très bon œuvre. Il a fait bien. Il a lancé les galaxies, les constellations en orbite. Il a pris tout son temps de faire notre planète bleue, qui est un miracle en soi. Hein. Les scientifiques vont vous le dire. Il faut... C'est hyper précis, cette planète bleue. Il faut juste un tout petit peu plus à l'est, un tout petit peu plus à l'ouest, ou en tout cas un peu plus comme ça, et on sera tous morts. On n'aurait pas l'eau, l'oxygène qu'il nous faut pour... C'est un véritable miracle, notre planète. Et ben voilà. On est maintenant 8 milliards, et combien on était avant? Peut-être 8 milliards avant déjà. Hein. Donc voilà le nombre qu'on est. Et avec chaque être humain sur cette terre, Dieu souhaitait avoir cette communion profonde et proche qu'il a entre eux. Vraiment, c'était son but initial. Et on connaît l'histoire, cette grande tragédie qui s'est passée, où les premiers humains ont fait leur déclaration d'indépendance, ils n'ont fait qu'à leur tête. Hein? On ne sait pas combien de temps, peut-être. Des fois, je pense que c'était tout de suite, après ils étaient créés, mais peut-être pendant des décennies, ils étaient en train de marcher dans la fraîcheur du matin avec Dieu, tous les matins. C'est beau ça, non? J'aimerais tellement marcher dans la fraîcheur du matin. On le fait, mais eux, c'était vraiment, ils avaient Dieu là. Et voilà, pour les avoir libres, il fallait leur donner le choix. Et ils ont choisi de faire qu'à leur tête, comme moi je fais régulièrement. Hein. On ne va pas leur jeter la pierre, je le fais quotidiennement, de faire qu'à ma tête. Et ils ont fait ça et ils ont donc projeté l'humanité entière dans les ténèbres. Mais Dieu, il lève les manches, j'aime bien imaginer Dieu, tu vois, il dit « remettons-nous au travail ». Et cette grande plan de rédemption, il s'est mis en route et il a dit « voilà, je... » Take the blueprints, en anglais on dit, reprenons, alors on retourne à là, les architectes disent quoi, on repart, ouais. Et il repart, et il, un beau jour, il fallait qu'il vienne, n'est-ce pas, en personne, en chair et en os, et pour ça, il fallait, Dieu était géolocalisable à un moment donné, vous imaginez, en Palestine, donc pour cela, il a fallu que quoi ? Qu'une nation soit créée, pour une nation, un peuple, hein, une famille, un couple. Et il a commencé donc avec Abraham et Sarah. Et il a fait tout compliqué. Donc, comment créer une nation ? On prend un couple stérile, voilà. On démarre comme ça. On démarre bien. Hein. Mais voilà, Dieu avait tout son temps. Il a pris tout son temps. Et voilà, et à plusieurs reprises pendant cette histoire, il s'est rapproché par le temple, le tabernacle, Dieu au camping, j'aime bien dire, Dieu qui fait le camping, tabernacle, après avec le temple, et à plusieurs occasions par les prophètes, il voulait être au plus près de son peuple, mais voilà. Il a fallu un beau jour, in the fullness of time, on dit en anglais, et non, en français on dit quand le temps était mûr, ou bien le temps était Jésus, Dieu en personne est venu fouler notre planète, la poussière de notre planète par ses pieds. Il a connu toute notre souffrance. Chaque chose que tu vis, chaque réalité que tu vis, bah Dieu en personne l'a vécu. Il connaît ta souffrance, il sait ce que tu vis. Il l'a vécu lui-même. Et à un moment donné, bah il a vécu, il est mort et il est ressuscité. Hein, tout ça faisait partie du projet de Dieu. Mais après, il dit, il faut que je m'en aille. Hein? L'ascension, hein? Il faut que je m'en aille. Il est mieux pour vous que je m'en aille. Et pourquoi ? Ben, le week-end prochain, nous allons fêter justement ce fait incroyable où il se démultiplie. Donc Dieu va se démultiplier et on est tous des petits Christ. C.S. Lewis dit qu'on est tous des petits Christ quelque part parce qu'il s'est démultiplié par son esprit, le Saint-Esprit, dans nos cœurs. Et maintenant, nous sommes tous en fait des petits Christ partout. Hein, nous représentons et c'est ensemble que nous pouvons lui ressembler. Moi, tout seul, je ressemble juste une minime partie de qui est Dieu, mais il faut toute l'Église pour vraiment ressembler à son Créateur. Donc, voilà cette histoire. Et j'aime penser qu'à un moment donné, il y avait un dilemme. Alors, bon, pardonnez-moi, hein, des fois, j'ai mon imagination qui part comme ça. Il y avait quand même un dilemme parce que Dieu, il est respectueux de notre liberté. Et j'imagine comme ça, c'était sûrement pas comme ça, mais je m'imagine comme ça. À un moment donné, Dieu a dû se réfléchir et dire « Comment je vais faire pour habiter en eux, au plus près d'eux, laissant vraiment libre ?» Parce que le côté négatif d'une autre personne qui vit en moi, c'est d'être possédé. Pour nous, c'est horrible d'imaginer quelqu'un possédé, n'est-ce pas ? C'est une autre être qui vit en moi, c'est horrible. Mais en fait, Dieu décide de vivre en nous et nous on l'accueille, on lui a demandé, hein, il viendra jamais sans qu'on lui demande, hein, on est d'accord. Il vient si on lui prie de venir et il vient. Mais du coup il vit en moi et comment être ce Dieu respectueux de mes choix, respectueux de moi tout en étant là et il le fait au quotidien. Moi comme je vous ai dit, je peux passer des... J'ai honte, hein. Franchement, j'ai honte de vous dire ça. Je peux passer des fois des jours entiers où je pense à peine à Dieu. Et je fais qu'à ma tête, et je fais ma propre vie, et je mène... Et pourtant, il est là, en me tendant des invitations. Et j'aime dire, mais Dieu est un Dieu respectueux, mais il nous talonne. C'est un Dieu qui nous cherche. Il cherche le brebis perdu, et moi, j'ai beaucoup de parties en moi qui sont perdues. Et Dieu vient à nous recherche. Il nous cherche inlassablement. Parce qu'il veut mieux pour nous que justement qu'on fait qu'à notre tête. Moi, j'ai un témoignage personnel, c'est que depuis tout petite, je crois à un mensonge, et je l'ai déjà dit, vous le connaissez, je suis toute seule. Je comprends les raisons, il y a des bonnes raisons pour lesquelles je le pense, je le crois, mais c'est un grand mensonge qui m'a traversé ma vie. Encore aujourd'hui, des fois, je lutte. Même en préparant ce message, par moments, je croyais que j'étais seule et Dieu me dit, mais Liliane, combien de fois je dois... Et regardez ce que j'ai vu ce matin sur le tableau dans la salle des enfants. Donc, avertissement à un parent dans la salle, il y a un de vos enfants qui se sentent seuls, donc je vous laisse avec cette responsabilité. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Jamais nous sommes seuls. Toujours il est là. Au milieu de la nuit, je me réveille. Tout le monde dort. Et Dieu est là. Il m'accueille. Il est là, présent. Je peux lui parler. Il ne sommeille pas, il ne dort pas. Je ne suis jamais seule. Une chose qui m'empêche également de vraiment vivre au plus près avec cette réalité-là, c'est que des fois, mes culpabilités me gardent distant de Dieu. Et dans culpabilité, j'aimerais mettre des vraies culpabilités qui sont liées à des véritables choses très concrètes qui sont vraiment à renoncer et à demander pardon. Et il y a un tas de fausses culpabilités avec lesquelles je me combats souvent. Et des fois, je trouve intimidant parce que où irais-je de ta présence? C'est vrai que c'est un peu impressionnant, hein, à la fois de vivre avec des fois une sorte d'état de culpabilité et de dire, bah, en fait, Dieu est là, il me voit et comment faire pour lui fuir? Mais on sait que c'est impossible et on sait que Dieu est patient, bienveillant, toujours là. C'est un peu de vivre en apnée, de vivre sans cette réalité, hein, ce que je disais, cette union, c'est de vivre en apnée. Et c'est vraiment pas à quoi Dieu nous invite inlassablement. Donc, revenons à ce texte de Colossiens 3, parce que ce texte dit deux choses. À la fois, c'est un fait, vous êtes cachés avec le Christ en Dieu, mais après, dans le chapitre, et je vous encourage peut-être de le lire cette semaine, il y a beaucoup, beaucoup d'injonctions qui disent « Recherchez donc les réalités d'en haut, tendez vers les réalités, débarrassez-vous de colère, irritation, méchanceté, revêtez-vous d'ardente bonté, bienveillance, d'humilité. » Donc il y a à la fois cette double vérité, hein, à la fois un fait, hein, comme disait Frédéric, ça ne change rien, et en même temps, pour rester en communion avec Dieu, ça va demander de ma part des efforts, ça va demander de ma part un travail. Je vais devoir débarrasser des anciennes choses, me revêtir, de rechercher, de tendre vers. Et j'aime bien dans la traduction de Message, il dit dans les premiers versets de Colossiens 3, il dit « Arrêtez de shuffle along ». Il dit vous marchez comme ça, les yeux vers la terre, vous regardez juste ce qui est devant vous. Si vous voulez tendre à cette vie de résurrection, mais levez les yeux, mettez les vraies lunettes. Les vraies lunettes, c'est quoi? C'est les lunettes que Dieu me donne, où on voit tout d'un coup d'être alerte à ce qui est en train de se passer autour de Christ et poursuivez ces choses-là. Arrêtez de poursuivre les choses juste devant toi, juste ton quotidien, et lève les yeux. Donc ça demande aussi de nous à les mettre ces lunettes, à regarder le Christ et de dire quelles sont les réalités, Seigneur, qui se passent autour de toi et comment est-ce que moi je peux m'occuper de ces choses-là ou participer à des véritables choses qui vaillent la peine, hein, et de ne pas poursuivre en fait ces choses mortifères que souvent je fais. Voilà. Mais... Et je vais bientôt terminer là. En fait, la raison pour laquelle Dieu veut être au plus près de nous, c'est que... Alors, j'ai mis trois, mais il y en a bien plus, hein. Donc, cette intimité qu'il a désirée depuis l'éternité, c'est ça qu'il veut. Et là, je crois, la deuxième chanson le disait, que c'est un apprentissage. Je dois apprendre à grandir dans l'intimité avec Dieu. Ça ne va pas tout seul. C'est comme dans une relation. On a besoin de passer du temps ensemble pour... à se connaître. Et donc, Dieu m'invite et il est heureux de vivre en moi. Il a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour aujourd'hui, je peux avoir Dieu qui vit au plus intime de ma vie. Ça lui a valu beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais pourtant, cette intimité, ça ne va pas de soi et c'est un travail aussi de ma part à faire et de vraiment passer du temps avec lui, de lui permettre de me toucher. Ouais, ça demande un investissement. Dieu veut un vie de succès, il veut pour nous de porter des fruits, comme cet arbre planté au bord des courants d'eau, comme ces épis, hein, qui sont dans la bonne terre, qui portent. Dieu veut pour nous des vies de réussite, il veut notre succès, Mais pour cela, nous porterons seulement du fruit si nous sommes en union. C'est uniquement là qu'on portera du fruit. D'ailleurs, il y a un autre passage qui dit « sans la foi, c'est péché ». Donc, tout ce que je fais sans être en union avec Dieu, je pêche, en fait. C'est grave, hein? Ouais. Il veut que je porte du fruit. Il veut que je sois victorieux. S'il y a des péchés dans nos vies avec lesquels on lutte, c'est en union quand je suis... Je me rappelle d'être dans cet état-là, c'est là où j'ai la victoire sur les péchés dans ma vie. Et là, je vais porter du fruit. Et j'aime beaucoup dire, il y a une binôme unique que Dieu et toi, tu formes. Toi et Dieu, vous formez un binôme unique de toute l'éternité, de toutes les personnes qui a jamais existé. Ce que toi étant Dieu, vous faites, personne d'autre peut le faire. Et si tu le fais pas, ça sera pas fait. J'aime bien penser à ça, de dire Dieu veut accomplir, on a des choses à accomplir sur son agenda, il a, voilà, le binôme avec Liliane, je veux faire ça, et si je ne reste pas dans cette union avec le Christ, ça ne sera pas fait, tout simplement. Dieu s'y prendra autrement, il a fait plein de détours hein, avec le rébellion, voilà, il saurait le faire, il le ferait autrement, son plan va s'accomplir, mais il veut que lui et toi, d'accomplir cette chose unique que seulement vous pouvez accomplir. Et pour terminer mon message, je vais lire la traduction, la paraphrase du message, parce que ce n'est pas facile. On ne va pas se mentir que c'est facile. Ce n'est pas facile. Regarde, Éphésiens le dit. Il y a un tas de choses que je voulais encore vous dire. Ce week-end, je suis en cours de Gilles Boucoumont qui s'appelle Libéré. Si jamais vous ne le connaissez pas, je vous en parle volontiers. Alors, Gilles Boucoumont aime dire que avant ma conversion, en fait, j'ai en effet âme, corps et esprit, et que mon esprit est tout petit avant de connaître Dieu, parce que l'esprit est le lieu où je rencontre Dieu. Donc, peut-être les gens ésotériques, ils ont plus grand esprit. Je ne sais pas comment ça marche, mais donc, et après ma conversion, voilà ce qui se passe. Dorénavant, c'est plus mon esprit, parce que mon âme qui dirige tout, c'est plus mon âme le moteur. Quand je récidive, c'est de nouveau mon âme le moteur de ma vie. Mais avec, uni avec Jésus, c'est son esprit en majuscule et mon esprit, c'est nous, c'est ça qui doit prendre le moteur. C'est le moteur de ma vie, devrait être. Donc voilà, dans cet ordre-là. Et c'est ce qui est très beau, et là on geek un tout petit peu, c'est que ça ressemble à la configuration du temple, où il y a ces trois, les trois choses qui vont vers le saint des saints, c'est là où Dieu se trouve, dans mon esprit, c'est là où Dieu se trouve, et on peut même geeker encore plus, dans le Bible Project, il y a cette idée que même dans le jardin d'Éden, il y avait en fait ces concentriques, ces cercles concentriques d'Éden, le jardin, le milieu du jardin, et où Dieu baladait, qui ressemble au temple. Donc voilà, pour un moment. Donc juste pour dire que cette vérité que Dieu veut être au centre de nos vies, voilà, il y a plein de traces dans la Bible de cette vérité-là. Et voilà le texte. Dieu est fort et il vous veut fort. Prenez donc tout ce que le maître a préparé pour votre défense, des armes fabriquées avec les meilleurs matériaux. Apprenez à les utiliser pour pouvoir résister à tout ce que le diable vous balancera. Ceci n'est pas un petit concours athlétique d'amateurs que nous allons quitter et oublier dans quelques heures. Ce combat est le vrai, une lutte à la mort contre le diable et tous ses anges. Soyez donc prêts. Vous avez affaire à des puissances bien trop grandes pour vous. Pour vous en sortir seul. Prenez donc l'aide que vous pouvez saisir, chaque arme que Dieu vous propose, afin que, quand cela sera terminé, vous serez toujours debout. La vérité, la droiture, la paix, la foi, le salut sont plus que de simples mots. Apprenez à les utiliser. Vous en aurez besoin durant toute votre vie. La parole de Dieu est une arme indispensable. Pareillement, la prière est essentielle dans ce combat constant. Prier avec énergie et persévérance. Donc c'est une lutte, un combat à la mort. Une lutte à la mort. C'est pas une petite chose. On est vraiment... Satan, plus je suis intime avec Dieu, plus lui, il va me faire la guerre. Et donc, on s'expose. Mais il y a tous les armes dont on en a besoin. On n'a pas besoin d'avoir peur. Voilà. Et pour terminer, avant que je vous propose les questions, voilà le texte que je vais vous laisser. Dans Éphésiens 1. Alors, donc c'est une prière pour nous. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, en nous, à nous, qui plaçons notre confiance en lui? Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts. Et il a fait siéger à sa droite. Et il y a un autre verset qui dit aujourd'hui, l'Esprit qui a ressuscité Jésus parmi les morts vit en nous. Donc vous imaginez la puissance qui est à notre disposition, si nous le permettons, à qu'il règne en moi. J'ai bien aimé à la fin, c'est règne en moi. Donc on est bien d'accord, hein, c'est pas égal à égal. On lui laisse la première place, on lui laisse régner, hein. On se soumet à Dieu, mais il y a ce côté quand même d'union qui est vraiment un fait. Je vais prier encore comme ça. Seigneur, c'est tellement émouvant. Combien de peines tu t'es donné pour qu'aujourd'hui, chacun de nous ici peut vivre avec Christ en vous, l'espérance de la gloire. J'aime des fois imaginer les anges qui nous regardent et qui secouent la tête, qui disent oh, « ils ne se rendent pas compte, hein ?» Ils ne se rendent juste pas compte. Oui, c'est prodigieux ce que tu as accompli et ce que tu veux encore faire en nous et à travers nous. Merci pour ta patience. Merci pour la joie que tu as de vivre en nous. Merci pour ton espérance pour nous. Merci parce que tu nous talonnes. Tu ne vas pas nous laisser tranquilles et tu continues à tendre des invitations encore et encore et encore pour que nous puissions vraiment porter du fruit. Oui, te mettre en premier, la meilleure chose qu'on peut faire. Oui, alors, merci Seigneur. Amen.